Bonne année avec Suno Assurance, qui a le profil pour vous accompagner pendant ces 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de portraits dans Priorité Santé. Ces portraits que l'on a retrouvés tout au long de cette semaine, des entretiens avec des femmes, des hommes, médecins et praticiens engagés pour la santé publique, des parcours de vie exceptionnels pour le bien-être du plus grand nombre. Docteur Rada Hatem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, fondatrice de la Maison des Femmes, unité fonctionnelle de l'hôpital de La Fontaine, et médecin-chef de cette Maison des Femmes de Saint-Denis, bâtisse de verre, de bois et surtout de couleurs, rose, jaune, vert, rouge, j'en oublie sûrement, un lieu de prise en charge, de bienveillance. Docteur Rada Hatem, est-ce que cette maison, est-ce que cette bâtisse correspond exactement à l'idée que vous vous en étiez faite ?
Oui, en fait, on a mis beaucoup de temps à trouver le nom. On voulait le nom d'une femme inspirante et on n'a pas trouvé. Par exemple, Simone Veil, il y en avait déjà beaucoup, etc. Et puis, on a finalement laissé Maison des Femmes en se disant que c'était tellement large et inclusif que c'était bien. Et l'expérience montre que oui, ça, déjà le mot, les femmes se le sont appropriées. Et la maison en elle-même, on a travaillé avec un architecte et toute son équipe et qui nous ont fait plein de propositions. Il y avait des choses un peu rondes pour évoquer la maternité. Puis à un moment donné, on était très ambitieux, on voulait des terrasses et tout ça. Et puis finalement, non, on a retenu cette petite maison parce que vraiment, elle symbolise le foyer, en fait. Le foyer que beaucoup de nos femmes n'ont pas.
Docteur Rada Hatem, planning familial, consultation, là on parle de ce que l'on rencontre indirectement en termes de soins dans cet espace de santé. On va évoquer tout à l'heure le cœur de cette spécialité qui est la vôtre, la gynécologie obstétrique. Mais justement, au-delà de cette pratique de la médecine, comment est-ce que vous vous définissez ? Vous êtes certes médecin, mais au-delà, est-ce que vous êtes une militante, une porte-parole, une activiste ? Est-ce que vous ajoutez autre chose à ce terme, justement, à votre métier de médecin ?
Pour moi, la médecine a toujours une dimension sociale. C'est peut-être ça qui m'a intéressée, finalement, d'entrée de jeu, dans ce métier-là. Donc, je pense qu'on ne peut pas être médecin sans être un peu militant. Militant pour ses patients, militant pour la santé publique, militant pour le bien-être de tous. Donc, pour moi, ça fait partie intégrante du métier. Après, on peut exercer ce militantisme de différentes manières. On peut être un chercheur extrêmement pointu et découvrir des vaccins, des traitements innovants. Et on peut choisir d'être au plus près des gens et les accompagner dans leur vie. Et la gynécologie obstétrique a ça de passionnant, c'est qu'elle s'intéresse à la vie des gens, à leur vie intime, à leur vie amoureuse, à leur vie sexuelle, à leur vie de couple, à leur vie de maman. Et c'est cette richesse-là qui m'a aussi attirée dans ce métier.
Parce que peut-être que vous n'aviez pas forcément simplement envie de traiter la maladie ?
Si, parce que traiter la maladie, c'est extrêmement gratifiant. Soigner quelqu'un, l'opérer, il allait mal, il va mieux, c'est génial. L'obstétrique, l'art des accouchements, a aussi ça d'extraordinaire, que c'est un traitement minute, si je puis dire. C'est-à-dire que vous êtes là avec une femme qui va accoucher. Pour elle, c'est un moment extrêmement important de sa vie. Et en 10 minutes, vous la délivrez, c'est le mot consacré, et elle devient mère, et c'est quand même un moment magique aussi. Donc non, soigner la maladie, c'est bien. Après, effectivement, l'obstétrique, c'est des femmes jeunes, c'est des femmes qui vont bien, et la maladie intervient relativement rarement, c'est aussi agréable.
Le corps, dans ce qu'il a de beau, d'intègre, et aussi, on va le voir tout à l'heure, dans ce qu'il a de blessé, et d'abîmer. On va d'abord revenir sur votre parcours. Les années 70, vous quittez le Liban, vous avez grandi, vous avez étudié au lycée français, vous êtes parfaitement francophone, toute jeune déjà. Liban de la deuxième moitié des années 70, c'est un pays en guerre. Beyrouth, sa capitale, est déchirée. Ce reportage de Jacques Abouchard, c'est le journal de 20h, deuxième chaîne de télévision française. À l'époque, on dit encore Antenne 2. On est en mars 1976.
Une violence, un déchaînement qui ont permis aux milices de gauche d'entrer en force dans l'hôtel Holiday Inn. Victoire d'ailleurs très provisoire puisque, quelques heures plus tard, les groupes armés chrétiens contre-attaquaient furieusement. Appuyés par des mortiers lourds, des lance-roquettes et des chars, les phalangistes réussissaient à reprendre une partie du bâtiment. L'hôtel Holiday Inn est un verrou qui commande l'entrée des quartiers chrétiens de Beyrouth, ce qui explique l'acharnement mis par les deux camps à vouloir le contrôler. Au milieu de l'explosion de violence, le gouvernement a pris deux décisions jugées indispensables au dénouement de la crise. L'une prévoit l'amnistie de tous les dissidents, c'est-à-dire surtout les déserteurs de l'armée. L'autre permettrait au chef de l'État libanais, M. Frangieh, de démissionner dans les formes légales, alors qu'il refuse de céder à la force. Car à Beyrouth, malgré les désordres, le chaos, les combats qui font rage, dans chaque camp, on a toujours le souci de sauver la face.
Mars 1976, Beyrouth. En 77, donc quelques mois plus tard, vous, bachelière de 18 ans, vous rejoignez Paris. Vous vous inscrivez en médecine, Rada Hatem. Pourquoi vouloir devenir médecin et surtout aussi, pourquoi Paris ?
Paris était un choix totalement évident. Je suis totalement francophone depuis ma prime enfance. Mon père a fait ses études d'ingénieur à Paris. Paris était vraiment... fait partie de la famille, si je puis dire. Médecine, mais parce que... peut-être parce que effectivement, après quelques années de guerre et une envie de se rendre utile... Vous savez, quand vous avez 15 ans, vous êtes dans un pays en guerre, même si vous êtes anti-militariste, non-violent, il y a un moment où vous vous posez des questions, vous vous dites, mais je peux pas rester comme ça. Est-ce que je dois m'engager dans un parti? Mais lequel? Mais pour faire quoi? Et il vient un moment où ces questions-là deviennent quand même assez aiguës et je me suis dit, non, ça, c'est pas ce que je veux. Il vaut mieux que je m'en aille. Et donc, faire médecine, partir, c'est devenu mon projet du moment.
1979, l'obstétrique, la rencontre avec un stage, cette naissance. Est-ce que c'est justement le fait de voir la vie arriver comme ça, le corps d'une femme, cette vie qui vient, est-ce que c'est pour vous une révélation ?
Ah, complètement. Ce stage a été une vraie révélation parce que là, je voulais être en fait pédopsychiatre, parce que peut-être justement pour réparer les enfants traumatisés. Et là, je me suis dit non, ça c'est trop extraordinaire ce qui se passe là. Je veux être le médecin qui permet ça.
Et vous voulez le revivre aussi, le revoir et y contribuer. Alors, parcours porté par des rencontres, hein, souvent, justement, dans ces portraits, on l'a vu, des rencontres avec des médecins, avec des maîtres, des modèles. Vous nous avez cité le professeur Jacques Chavignier. Je vous propose d'entendre sa voix, la voix de celui qui fut donc, d'une certaine manière, votre maître.
Alors, l'incompatibilité rhésus, c'est une affection qui survient chez des femmes qui sont rhésus négatifs.
Oui.
Et qui, à un moment donné, s'immunisent contre le rhésus positif. Et le plus souvent, c'est soit après des transfusions, mais essentiellement, c'est à l'occasion de grossesses antérieures où elles ont des enfants rhésus positifs. Oui. Alors, elles forment des anticorps contre le rhésus positif.
Oui.
Et ces anticorps, au cours de la grossesse suivante, passent dans leur sang, passent dans le sang du fœtus et entraînent ce qu'on appelle la maladie hémolytique, une hémolyse, c'est-à-dire détruit les globules rouges des fœtus qu'elles ont dans leur utérus.
Le professeur Chavignier disparu en 2004, on l'entend dans ce reportage qui est tourné à l'hôpital Cochin en 1974. Alors, lors de votre internat, ça se passe à la maternité Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Justement, le professeur Chavignier est chef de service. Qu'est-ce que vous apprenez à ses côtés, docteur Rada Hatem ?
Tout. Non, cet homme a presque tout appris. Je suis très émue d'avoir entendu sa voix. Il avait une bienveillance incroyable. Il était, comment dire, c'était pas un opportuniste, c'était pas un politique. C'était un vrai médecin à l'ancienne. Il était d'ailleurs assez vieille France. Il était plutôt beau gosse, si je puis dire, malgré la différence d'âge. Il opérait toujours torse nu.
Torse nu.
Oui, il allait se laver les mains torse nu. C'était son truc. Et comme j'étais déjà assez taquine, je me souviens leur dire un jour, oh, Monsieur Chavignier, si vous aviez 20 ans de moi, je ne réponds de rien. Il a rougi comme une tomate. C'est le genre d'homme à qui on pouvait dire ce genre de conneries, en sachant bien que c'était mon patron, qu'il y avait un truc super hiérarchique. Voilà, ça le faisait rire. Et non, il avait ce vrai amour des gens, ce vrai amour des femmes. C'était impressionnant.
Mentor, élève, notion de transmission, d'équipe à équipe, pour tout dire, vous êtes venu aujourd'hui avec une stagiaire, comme quoi ça se perpétue. Cette notion de transmission qui est bien sûr essentielle dans le cadre hospitalier, et c'est ce que l'on va voir tout de suite.
RFI.
Transmission d'une génération à l'autre, partage d'expérience. Bonjour, docteur Marliba.
Bonjour.
Vous êtes interne de gynécologie obstétrique à Paris, ancienne interne à la Maison des Femmes. Docteur Ba, vous avez donc travaillé aux côtés du docteur Rada Hatem à l'hôpital de La Fontaine. Est-ce que vous gardez en mémoire le souvenir de votre première rencontre?
La première fois que je l'ai rencontrée, en fait, elle allait au bloc opératoire pour faire une ponction de ovocyte. Et je me suis présentée. Je ne savais pas qui j'étais, mais moi je savais qui elle était. Et puis je lui disais que j'allais venir à la Maison des Femmes pour voir ce qu'elle y faisait.
Alors 6 mois ensuite de travail ensemble, est-ce que vous gardez justement en tête peut-être des expériences particulièrement marquantes?
Oui, je me rappelle d'une fois où j'avais participé à une consultation avec elle. C'était une patiente en fait qui avait un problème d'infertilité, qui essayait d'avoir des enfants depuis un petit moment. Et qui n'arrivait pas, mais qui avait déjà eu un premier enfant. Et en fait, moi, j'étais super impressionnée de voir comment le docteur Hatem, en fait, elle avait su lire à travers la patiente et en fait comprendre d'emblée qu'en fait, elle voulait pas de grossesse, peut-être qu'elle avait une pression sociétale ou de la famille ou de son mari. Mais en fait, finalement, elle n'avait pas de désir de grossesse. Et elle a réussi à voir ça, en fait, et à mettre le doigt dessus. Et je trouvais ça vraiment fou d'avoir pu... Vraiment fonder la patiente comme ça.
Et selon vous, justement, cette approche était vraiment différente par rapport à ce que vous avez pu voir peut-être par la suite, lors de vos autres expériences. Cette approche de la gynécologie était différente?
En fait, oui, c'est une approche vraiment globale. Alors, on a tous cette aspiration à prendre en charge les patientes de façon globale, mais je trouve que le docteur Hatem, elle a ce plus qui fait qu'elle arrive vraiment à fonder ça.
Tout à l'heure, vous avez dit impressionnante, cet adjectif. Quels autres mots vous viennent en tête, justement, pour définir sa personnalité, comme son travail, d'ailleurs, docteur Marliba?
Une personne dévouée, attentionnée, inspirante. Une femme d'influence, une Wonder Woman, en fait.
Mais on n'est pas face à un Marvel, mais en même temps, personne n'est parfait. Docteur Marliba, vous n'avez pas un petit mot quand même pour la vexer, quelque chose, en fait, qu'on puisse se mettre sous la dent? Parce que là moi, je sais plus quoi dire. Je suis face à la perfection, je sais plus quoi dire.
Peut-être, ce serait de dire comment elle fait pour tout faire. Est-ce qu'elle arrive à tout allier? C'est difficile, vu la charge de travail qu'elle a aussi. Comment elle fait pour tout allier, en fait.
Merci infiniment. Merci, docteur Marliba, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes interne de gynécologie obstétrique à Paris et ancienne interne à la Maison des Femmes. Docteur Rada Hatem, vous avez pas mal ri pendant cet entretien. Est-ce que vous êtes surmenée?
Oui, j'ai une charge de travail importante, mais je l'accepte. Je ne suis pas en burn-out.
Si vous voyez quelqu'un autant occupé que vous, est-ce que vous diriez pas lève un peu le pied, calme-toi, tu risques d'y laisser des plumes ou non? C'est plutôt quelque chose finalement qui fait partie de votre nature?
Moi, ça fait partie de ma nature. Maintenant, quand j'ai des patientes qui sont aussi dans des choses de même sorte, la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous êtes heureuse comme ça? Si vous êtes heureuse comme ça, ma foi, continuez, mais faites attention à votre petite voix intérieure. Si un jour elle vous dit là, ça va pas le faire, écoutez-la.
On a bien compris là avec le témoignage de votre ancienne interne l'importance du travail, travailler ensemble, travailler en équipe, c'est essentiel. Votre Maison des Femmes, justement, c'est vraiment un espace pluridisciplinaire. Ces compétences différentes, ces personnes d'origine différente, de milieux professionnels différents, comment ça s'est constitué? Est-ce que les gens sont venus suite à un projet prédéfini ou les personnes et les compétences se sont greffées au fur et à mesure?
Les deux. En fait, moi j'avais cette idée d'une offre de soins très complète, si possible, parce que je trouve que c'est ce qui manque un peu à l'hôpital et c'est ce qui manque dans la vie des gens. C'est-à-dire que quand vous avez un problème de santé assez spécifique, si on vous dit pas, voilà, viens, je vais te prendre en charge, tu vas faire ça, ça et ça, c'est compliqué. C'est toujours compliqué que votre enfant soit malade, que votre maman ait besoin d'une prise en charge gériatrique complète. Bah écoutez, vous êtes souvent très démunis et vous cherchez désespérément le bon médecin, la bonne structure, la bonne institution et vous la trouvez rarement. Donc quand on en vient à parler des violences, ce besoin-là est encore plus aigu puisque ce sont des femmes qui sont rendues vulnérables par les situations qu'elles vivent et donc pour moi c'était évident qu'il fallait leur simplifier la vie. Donc simplifier un parcours, ça veut dire s'entourer de tous les gens qui peuvent intervenir dans ce parcours.
Parce que l'impact également est multiple.
Ben, l'impact est multiple sur leur santé, sur leur l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, donc sur leur famille, sur leur boulot et sur leurs enfants, qu'il ne faut jamais oublier.
Alors on poursuit l'évocation de votre cheminement, on va revenir hein, par mouvement de va-et-vient toujours vers cette maison des femmes, en tout cas parcours médical, hospitalier, docteur Rada Hatem. On a parlé tout à l'heure rapidement de la maternité Saint-Vincent-de-Paul, où vous avez rencontré donc le professeur Chavigné. Avant les bluets, vous disiez tout à l'heure d'emblée, pour moi médecin c'est aussi un métier qui relève du social, justement les bluets, là vous êtes dans l'incarnation, les murs de cette vraiment cette rencontre, on va pas dire collision parce que collision c'est négatif, plutôt cette symbiose entre le social et le médical.
Absolument, les bluets c'est quand même une maternité historique et elle vit en ce moment des moments très très difficiles et pour autant personne n'a envie qu'elle disparaisse. Parce qu'elle représente un moment de l'histoire, déjà le fait que ce soit à la base la polyclinique des ouvriers de la métallurgie quand même, donc une vocation sociale très forte. Et ensuite, parce que c'est là qu'est né ce concept d'accouchement sans douleur que Fernand Lamaze a complètement créé. Donc c'est un lieu d'histoire, il faut absolument le conserver. Et en arrivant dans ce lieu que je ne connaissais pas, j'ai découvert l'histoire de l'accouchement sans douleur qu'on ne nous apprend pas, nous, jeunes accoucheurs un peu traditionnels de la faculté de médecine de Paris. Et évidemment, je me suis retrouvée tout à fait en phase avec cette philosophie. C'était tout à fait évident pour moi.
C'était aussi une autre façon de responsabiliser les femmes.
C'était à la fois les respecter, les responsabiliser et maintenir ce dialogue que je trouve essentiel dans notre profession. C'est-à-dire, je sais des choses que vous ne savez pas, mais vous savez des choses de vous-même que je ne sais pas. Peut-être que de notre dialogue naîtra la solution.
Alors, vous pratiquez justement les bluets, donc structures, on va dire, assez typées, hein, qui ont des démarches, des approches singulières, des vraies histoires. Il y a comme ça des hôpitaux à Paris, on va dire, pas comme les autres. Qu'est-ce que vous ont appris, justement, ces années parisiennes, d'aller d'une maternité à l'autre, de voir finalement une philosophie de la naissance et une autre philosophie de la naissance?
En fait, chaque structure a des choses à nous apprendre. C'est-à-dire que je suis arrivée au bleuet dans une maternité qui, pour le coup, était à une époque de sa vie où ça manquait un tout petit peu de rigueur, de trucs très carrés. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était justement de faire coexister ces deux mondes. Le monde de l'hôpital universitaire, le monde des bleuets qui était un monde plus bobo, plus peut-être plus vivant.
Avant l'heure,
oui. Et de ramener, j'ai toujours aimé ça, c'est-à-dire ramener dans l'endroit où j'étais ce qui me semblait manquer, que j'avais pu découvrir ailleurs.
Et justement, ce que vous avez pu faire dans un cadre, alors là, complètement différent, l'hôpital militaire de Saint-Mandé, l'hôpital Bégin. Justement, quelle place particulière, qu'est-ce que vous amenez sur place qu'il n'y avait pas? Quel petit vent, à votre façon, ce petit vent oriental, qu'est-ce que vous amenez sur place?
Eh bien, Bégin, ça a été un moment très important de ma vie, parce que c'était pour moi la fin des bleuets. C'est vrai que travailler avec la CGT, c'est pas toujours évident, et donc au bout d'un moment, de lassitude, j'avais envie de changer. Et là, opportunité inattendue, j'habite en face de Bégin, je connaissais le chef de service, qui me dit « bah j'ai un poste pour toi, et il faut faire un choix, il faut s'engager dans l'armée ». Pour moi, qui suis étrangère, pas tout à fait prête à me mouler dans un cadre, j'ai longtemps hésité parce que je me suis dit, mais est-ce que je vais survivre dans cet environnement qui n'est absolument pas le mien? Et puis j'ai rencontré un ou deux généraux et je les ai trouvés finalement tout à fait charmants, ces gens-là. Et je me suis dit, je vais tenter l'aventure avec une petite interrogation. Est-ce qu'ils vont me prendre? Moi, l'immigré de première génération qui vient de la CGT, est-ce que l'armée va bien vouloir de moi? Donc il y a eu, je pense, une enquête de voisinage, comme ils font d'habitude, et aux surprises, on m'a dit, non, parfaitement, vous rentrez dans les clous, on veut bien de vous.
Et vous rentrez à un grade particulier ?
Oui, tout à fait. Je suis rentrée comme commandant, parce que à l'armée, si vous n'avez pas de grade, vous n'avez pas de fiche de paye. Donc, il fallait un grade, et donc ils font une espèce de concordance entre vos années d'études et tout ça. Et ça aussi, c'est très amusant de devenir un commandant dans l'armée française.
Surtout quand on met des bébés au monde, oui, commandante. On obéit à la commandante, il y a intérêt.
Au doigt et à l'œil.
Voilà, institution médicale militaire, donc on a forcément cette idée un petit peu traditionnelle, un petit peu rigide. Et vous faites rentrer l'IVG à Bégin, comment ça se passe, docteur Rada Hatem, l'interruption volontaire de grossesse?
Ça se passe pas très bien au début. Alors, je peux comprendre, c'est-à-dire c'est une institution dans laquelle il y a une petite maternité, mais bon, l'armée n'a pas vocation forcément à faire naître des bébés ou à s'occuper des femmes. En tout cas, c'est pas comme ça qu'elle l'entendait. Donc, il y avait une maternité, c'était bien, mais pour le reste, c'était aller voir ailleurs. Et à l'armée, il y a des femmes. Il y a des femmes militaires, il y a des femmes de militaires. Et je trouvais pas ça cool de leur dire « Ah non, on fait pas ça ici ». Sauf autant que c'est un hôpital public et que tous les hôpitaux publics ont obligation de proposer des solutions d'IVG. Donc j'ai fait par petites touches, c'est-à-dire j'ai commencé par en faire une, plus ou moins en secret. Il fallait convaincre l'anesthésiste, il fallait convaincre la chef de bloc. Et petit à petit, alors que ça a été très violent au début, que j'étais menacée d'être excommuniée, qu'on allait se plaindre au pape et tout un tas de sornettes, les gens ont très bien compris que humainement, c'était normal de faire ça. Et je sais que maintenant, les jeunes femmes avec lesquelles j'ai travaillé, que j'ai un peu formées et qui sont en poste à Bégin, maintiennent cette activité d'IVG sans aucun problème.
Alors, on est bien sûr dans une période où on a déjà passé les décennies de changements majeurs pour les femmes, même si rien n'est jamais acquis pour leurs droits. Des lois portées par des figures qui vous inspirent. Forcément, vous avez déjà cité son nom au début de l'émission, Simone Veil, disparue en juin 2017. Simone Veil, ministre de la Santé en novembre 1974. On connaît forcément ces mots. Elle s'adresse à une assemblée nationale essentiellement masculine pour porter son texte historique, cette réforme de la législation sur l'avortement.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin?
Simone Veil, ces mots qui portent toujours, 26 novembre 1974 à l'Assemblée nationale, source d'inspiration pour vous aujourd'hui encore, docteur Rada Hatem?
Bien sûr, d'abord un petit peu d'autopromotion, mais j'ai eu le prix Simone Veil de la région Île-de-France et je dois dire que c'est un prix qui m'a plus que d'autres fait plaisir parce que c'est quand même une femme extraordinaire. Cette femme qui vit la fin du monde dans un camp, qui reprend ses études en sortant, qui construit une vie de famille, qui grimpe à les échelons politiques les plus élevés, à une époque où ça devait pas être drôle tous les jours d'être une femme dans ce monde-là, et qui arrive aussi à apporter cette loi qui n'est pas forcément dans ses convictions personnelles au début, je pense, et qu'elle s'approprie complètement parce que, et elle le dit tellement bien, mais qui s'occupe de ces femmes? Et si moi, ministre de la Santé, je ne m'en occupe pas, mais qui va s'en occuper? Pour toutes ces raisons-là, oui, elle a droit à toute mon admiration.
Même si aujourd'hui, on demande, j'ai l'impression, à certaines femmes de se justifier d'expliquer leur rapport, de décrire, de définir leur leur féminisme. Docteur Rada Hatem, vous vous définissez comme féministe?
Oui, finalement, après mûre réflexion.
Mais finalement, pourquoi aujourd'hui, justement, on avance à tâtons pour répondre à cette question? Pourquoi?
Mais parce qu'il y a tellement de féminismes différents que c'est difficile de s'y retrouver. Et que à la base, je suis pas une activiste, je suis un médecin. Mais étant le médecin des femmes, forcément, j'ai pris, chaque fois que je pouvais, fait cause pour elles. Que ce soit, par exemple, pour les homosexuels en demande d'enfants, pour lesquels je suis pas seule. On a été très nombreux à gentiment transgresser la loi qui interdisait de leur donner des conseils du style « vous pouvez aller en Espagne et ça sera différent ». Donc oui, je pense que j'ai essayé, en tout cas, d'être toujours à côté des femmes quand elles en avaient besoin. Et rien que pour ça, je suis féministe. Et puis, par ailleurs, je suis égalitariste, mais je ne sais pas si ça existe. C'est-à-dire que moi, mon combat, c'est même droit, même devoir pour les deux sexes.
Justement, 1975, cet hymne, Debout, les femmes, hein, c'est l'hymne du MLF. Vous l'avez choisi pour illustrer cette émission, des femmes engagées dans la lutte qui inscrivent ces mots sur le papier. Chanson manifeste qui a été reprise par 39 voix féminines, une chanson enregistrée à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 39 artistes donc autour du duo Brigitte. Et tout de suite, on les fait découvrir aux auditeurs de Priorité Santé. Brigitte avec entre autres Inamoja, Olivia Ruiz, Agnès Jaoui. Elle chante pour récolter des fonds pour votre maison des femmes de Saint-Denis. Docteur Rada Hatem, gynécologue obstétricienne, votre parcours, votre portrait. Nous poursuivons ce parcours dans Priorité Santé. Vous avez donc fondé cette maison au sein de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis. Et cette structure, elle vit justement grâce à un financement obtenu à force de ténacité, à force de persuasion. Est-ce que quand vous avez lancé le projet, vous étiez sûr d'arriver à vos fins, y compris sur ce plan assez délicat et assez éloigné de votre spécialité de gynécologie et d'obstétrique, à savoir aller chercher tout cet argent? Comment vous avez fait?
Eh ben, il paraît qu'on peut tout apprendre, même le chinois. Alors moi, j'ai appris la levée de fonds. Et c'est vrai que c'est un métier très particulier. C'est un métier, par contre, où plus on avance et moins c'est difficile. Parce qu'on s'est fait un réseau, parce qu'on sait mieux où frapper, comment demander. Mais bon, en général, je dis que je suis mendiante professionnelle maintenant. Non, j'avais pas du tout imaginé ce qui se passerait. J'avais pas du tout imaginé que ça ferait un tel bruit, cette maison. À la base, je voulais juste un endroit chouette pour les femmes, que je ne pouvais pas avoir dans l'hôpital parce qu'il n'y avait aucune place. Et c'est vraiment parti très modestement. En avançant progressivement, je me suis aperçue que je pouvais inclure plusieurs prises en charge dans ce lieu, au-delà du planning familial qui était ma première idée. Il y avait les violences conjugales, les violences sexuelles, les mutilations, donc ça devenait une mini-unité de prise en charge en soi. Et là, je me suis dit qu'il fallait être ambitieux, qu'il fallait pas se contenter de n'importe quoi. Au début, on était parti sur un pratiquement un préfabriqué, mais très vite, on s'est dit non, il faut que l'endroit soit beau, qu'il soit symbolique et qu'il montre que c'est un sujet d'importance. Et je crois beaucoup à la qualité qu'on met dans les lieux, dans leur décoration, dans l'atmosphère qu'on peut offrir à des personnes. Et plus ces personnes sont vulnérables et plus c'est important que l'atmosphère et que l'accueil soient irréprochables.
Vous disiez tout à l'heure, ça a fait du bruit. Dans quel sens? Des échos favorables? Une inquiétude? Des freins? Qu'est-ce qu'il y a eu autour justement de cette effervescence?
Pour résumer, je dirais qu'il y a eu deux grandes tendances. La tendance société civile, qui a été incroyable, avec un relais médiatique impressionnant. Il y a des moments où on avait deux journalistes tous les jours, de toutes sortes de médias. Et puis énormément de bénévoles qui, séduits par ce concept, sont venus vers nous alors que je les attendais pas du tout. Je pensais pas que des gens allaient m'écrire en me disant mais ça me plaît, mais j'aime cette idée, moi aussi, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Et ça, c'était quand même incroyable. Et notamment des fondations privées qui n'étaient pas obligées de le faire. Et je pense à François-Henri Pinault qui a été mon premier soutien et qui continue de parler de nous dès qu'il peut. Et ça, c'est quand même extraordinaire avec sa fondation Kering. Et toutes les autres fondations qui se sont jointes à nous, elle, Raja, même Bouygues avec Claire Pluriel. Je ne vais pas toutes les citer parce que je vais en oublier, je vais faire de peine à personne. Et puis la région qui a été un gros soutien. Et donc tout ça, je ne l'avais pas du tout imaginé. Le côté noir de la médaille, c'est le monde de l'hôpital. C'est ce monde dans lequel il faut faire toujours plus avec moins, où il faut être forcément rentable, où les prises en charge qui prennent du temps, qui ne rapportent pas grand-chose, qui demandent des soignants comme des psychologues, qui sont presque une dépense sans recette. Et ce monde-là est impitoyable. Et ce monde-là, je m'y suis beaucoup frottée, hélas.
Et vous avez réussi à changer des choses ou pas vraiment? Finalement, vous continuez, vous cohabitez, vous coexistez, mais la machine, elle reste aussi figée et aussi dure parfois.
La machine est dure. De toute façon, les temps sont durs. L'État n'a pas d'argent. L'hôpital est perpétuellement en déficit. Mais peut-être qu'il faut qu'on accepte aussi qu'il y ait des prises en charge qui soient déficitaires, comme la violence. Ça génère pas des actes de chirurgie à longueur de journée, donc ça ne génère pas forcément de financement pour l'hôpital. Et pour autant, il faut bien s'en occuper. J'ai lu avec plaisir que je ne sais plus quel directeur général des CHU considérait qu'aujourd'hui, les CHU devaient s'occuper de la prévention. Longtemps, l'hôpital avait comme message « je soigne, mais la prévention, c'est pas moi ». Là, c'est la ville, c'est les autres. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'idée que l'hôpital pourrait aussi s'impliquer dans la prévention est intéressante. Et je reconnais qu'après 6 ans de bagarre, l'agence régionale de santé, qui est ma tutelle, commence à avoir un accompagnement un petit peu plus bienveillant et va sans doute m'aider dans le financement et la pérennité de cette maison.
Alors, on va revenir à cette arrivée en Seine-Saint-Denis, parce que ce sont presque 10 années déjà que vous avez passé là-bas. Ça commence en 2012. On va voir un petit peu les différentes étapes avec, en cette année, l'agrément pour un projet de centre d'assistance médicale à la procréation. Vous êtes donc déjà à l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis. La PMA à Saint-Denis, pourquoi? Pourquoi ce choix, docteur Ada Hatem?
La PMA, c'est une partie, une dimension de la gynécologie obstétrique qui m'a toujours intéressée. Et quand j'étais à la maternité des Bleuets, j'avais déjà créé un centre de PMA. Et j'avais vu l'impact extrêmement intéressant que ça a sur un hôpital, parce que ça ramène une patientèle un peu différente, des pathologies différentes. Et puis la PMA, c'est quand même la grande aventure du XXe siècle autour de la reproduction. Des choses qu'on n'imaginait pas. Moi, quand j'ai commencé mes études, si un homme avait très peu de spermatozoïdes, on lui disait « dommage ». Aujourd'hui, on lui dit « on va pouvoir faire une ICSI, monsieur, il n'y a aucun problème ». Donc, les choses ont été profondément modifiées. Et donc, arrivé dans cet hôpital, qui était finalement étiqueté l'hôpital des pauvres, donc c'était déjà bien si on faisait des trucs de base, alors on pouvait avorter, ça allait bien. Et le jour où on a dit « mais on veut faire aussi d'autres choses dans cet hôpital, cette population mérite peut-être d'autres prises en charge », ça a été aussi un petit peu difficile de convaincre les tutelles qui disaient « oh, mais pourquoi, ils ont déjà assez d'enfants ?» Enfin, est-ce que c'est vraiment absolument indispensable?
Quand vous dites ça, on a l'impression que c'est cliché. C'est vrai? Vous avez entendu ce genre de choses?
J'ai entendu ça. Et j'étais avec ma directrice de l'époque et on n'était pas tout à fait d'accord. Donc on leur a dit qu'on voulait bien avoir une mission très 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 sociale, qu'on était consciente d'être là pour ça, mais qu'on voulait aussi avoir des prises en charge un petit peu plus innovantes parce que ça ramènerait plus d'exigences pour l'hôpital et aussi pour les jeunes internes. Les internes aiment bien aller dans des endroits où il y a des prises en charge différentes parce que ça leur permet d'apprendre plus de choses. Donc c'était aussi un cercle vertueux en faveur de l'hôpital de Saint-Denis.
Santé des femmes multiples, ouverture d'un centre de prise en charge du cancer du sein. Il n'y en avait pas, docteur Ada Hatem? dans cet hôpital de La Fontaine?
Alors, on opérait des cancers du sein, mais aujourd'hui, et c'est tout à fait normal, l'INCa, l'agence qui s'occupe de donner les agréments pour le cancer, exige que les centres qui font du cancer en fassent un certain nombre. C'est comme les maternités, on a fermé les maternités qui faisaient moins de 300 accouchements, parce qu'on disait que à moins d'un accouchement par jour, on n'était plus très compétent, et c'est vrai. Et ben, si on fait moins de... Alors, la barre est à 30 cancers du sein par an, l'INCa considérait que c'était pas bon et qu'il fallait fermer ces centres-là. On était à la limite, 29-30. Deux choses l'une, soit on acceptait, on fermait, on disait ok, on n'en fait pas assez, on va pas être assez compétent, soit on disait non, on va pouvoir développer parce que dans ce bassin, il n'y a pas énormément de prise en charge qualitative et que pour les gens qui ont des difficultés à se déplacer ou pour lesquels aller voir un grand hôpital parisien, c'est compliqué, avoir localement une prise en charge de qualité était sans doute la bonne réponse. Et là où ça a été vraiment incroyable, c'est qu'on s'est dit... Avec la directrice de l'époque, on devrait se rapprocher de Curie. Curie cherchait à l'époque à exporter un petit peu ses compétences. Et on leur a dit, bah écoutez, c'est très simple, considérez que nous sommes votre antenne dans le Nord. Et quelque part, validez-nous comme un peu un bébé Curie. Et ça a marché, c'est-à-dire que Curie a accepté de nous labelliser. Et grâce à ça, on a pu envoyer des jeunes médecins à Curie devenir un peu plus experts. Petit à petit, les médecins du secteur ont repris confiance dans l'hôpital et aujourd'hui on est largement au-dessus des quotas.
Et en 2015, service de chirurgie réparatrice dédié aux femmes excisées. Alors là, c'est vraiment la connaissance de terrain finalement, ces femmes que vous prenez en consultation, qui vous mettent devant cette réalité et qui vous poussent à aller vers cette super spécialisation.
Oui, l'excision c'est un problème que j'avais rencontré quand j'étais jeune interne et qui m'avait à la fois extrêmement choquée et intéressée. Donc j'ai continué à suivre quelques patientes, j'en avais opéré quelques-unes mais pas beaucoup dans mon parcours, celles qui me le demandaient, mais ça restait assez marginal. J'étais, quand vous êtes dans le 14e ou quand vous êtes à Saint-Mandé, vous n'avez pas une patiente excisée toutes les deux minutes. À Saint-Denis, vu les origines géographiques de nos patientes, on avait fait un petit audit qui montrait que 14% des accouchés étaient excisés. C'était un mois donné, une année donnée, mais en extrapolant, on peut imaginer que c'est à peu près...
Une femme sur 10 au moins.
À peu près ce qu'on trouvait dans notre bassin, plus toutes les femmes qui n'accouchaient pas, celles qui venaient pour stérilité, étaient également excisées. Donc on s'est dit, si quelqu'un doit s'occuper de ça, ben c'est nous. Parce que il y avait rien d'autre dans le département. Donc on s'est dit, c'est une évidence, on va se former, on va mettre en place toutes les prises en charge qu'il faut, comme un sexologue, comme des psychologues, comme des réunions pluridisciplinaires, et on va y aller.
Alors, comment ça s'est passé, justement, le fait que vos chirurgiens se forment, vos chirurgiens opèrent? Est-ce que les femmes qui finalement venaient pour autre chose, à un moment donné, sont venues vous voir pour ça, docteur Rada Hatem, spécialement pour justement ce diagnostic, même si elles le savaient en arrivant pour vous voir, savoir s'il y avait quelque chose à faire pour les aider, d'ailleurs pas forcément une chirurgie, mais une prise en charge pour soulager cette blessure de l'intimité.
Au début, c'était les sages-femmes qui... Quand on suit une femme, et notamment quand on l'accouche, on voit évidemment tout de suite qu'elle est excisée. Et on avait un petit peu formé les sages-femmes à en parler plus sereinement. Parce que la question qu'on se pose quand on connaît pas bien, c'est est-ce que j'en parle? Est-ce que je vais faire plus de bien en en parlant que de mal? Et oui, il faut en parler. Il faut en parler avec tact et mesure, au bon moment. Et donc, ça devenait plus facile pour les sages-femmes de dire, voilà, je vois que vous avez été victime d'excision, je le vois puisque je suis en train de regarder votre sexe. Est-ce que vous savez que dans cet hôpital, on peut vous proposer une prise en charge? Donc les femmes ont commencé à venir un peu comme ça. Et puis nous, on a communiqué autour de cette nouvelle unité. Et petit à petit, le bouche à oreille a fonctionné très très bien, ce qui fait qu'aujourd'hui, on reçoit, je dirais, peut-être 30 femmes par semaine pour ça. À la Maison des Femmes.
Est-ce que vous savez, sur ces 30 femmes, combien vont aller vers une chirurgie et combien vont aller vers une autre prise en charge qui peut aussi les aider, justement, parler de ces autres aussi prises en charge possibles?
Je dirais qu'aujourd'hui, on est à peu près à 50% de chirurgie, parce qu'une partie de ces femmes vient aussi pour des certificats d'excision, dans le cas d'une demande d'asile. Il n'y a pas forcément une demande de réparation sous-jacente, mais elles peuvent revenir 6 mois plus tard en ayant obtenu l'asile ou parce que l'idée leur est restée en demandant une réparation. Et puis il y a des femmes pour lesquelles, une fois les explications anatomiques données, la prise en charge sexologique, retrouvent un peu de confiance, s'aperçoivent que finalement, certes elles ont été mutilées, mais elles peuvent quand même avoir une sexualité pratiquement normale et qui considèrent que finalement, il n'est peut-être pas nécessaire de se faire opérer. Et puis il y a celles qui ont peur, qui reviennent un peu plus tard, enfin voilà. Donc on n'opère pas tout le monde loin de là, ça serait tout à fait anormal. Et on doit se stabiliser à peu près autour de 50% de chirurgie.
Alors ce projet, hein, début symbolique des travaux 2014, la première pierre, 2016, l'inauguration. Vous proposez un accueil confidentiel, sécurisé, compétences scientifiques, le mot de bienveillance évidemment qui vient à l'esprit. Et avant de conclure cette émission, si vous le voulez bien, docteur Ada Hatem, on va écouter ensemble la voix d'un homme qui, comme vous, fait du bien aux femmes, qui défie l'hostilité, la brutalité, le renoncement. C'est le docteur Denis Mukwege. Le 10 décembre 2018, il a reçu le prix Nobel de la paix à Oslo et il a pris la parole à cette occasion.
Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah nous a été transférée à l'hôpital de Panzi dans un état critique. Son village avait été attaqué par un groupe armé qui avait massacré toute sa famille, la laissant seule. Prise en otage, elle a été emmenée en forêt, attachée à un arbre, nue. Tous les jours, Sarah subissait des viols collectifs jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Le but de ces viols, utilisé comme arme de guerre, étant de détruire bien sûr Sarah, mais également sa famille, sa communauté. Bref, tout simplement, détruire les tissus sociaux. À son arrivée à l'hôpital, Sarah ne pouvait ni marcher, ni même tenir debout. Elle ne pouvait pas retenir ni ses urines, ni ses selles. À cause de la gravité de ses blessures génito-urinaires et digestives, couplées à une infection surajoutée, personne ne pouvait imaginer qu'elle serait un jour à mesure de se remettre sur ses pieds. Pourtant, chaque jour qui passait, le désir de continuer à vivre brillait dans ses yeux. Chaque jour qui passait, c'était elle qui encourageait le personnel soignant à ne pas perdre espoir. Chaque jour qui passait, Sarah se battait pour sa survie. Aujourd'hui, Sarah, c'est une belle femme, souriante, forte, charmante. Si une femme comme Sarah n'abandonne pas, qui sommes-nous pour le faire? Ceci est bien sûr l'histoire de Sarah. Sarah est congolaise, mais il y a des Sarah en République centrafricaine, en Colombie, en Bosnie, au Myanmar, en Irak et dans bien d'autres pays en conflit dans le monde.
Le docteur Denis Mukwege de sa clinique de Panzi à Bukavu, jusqu'à cet hôtel de ville d'Oslo, prix qu'il partage avec Nadia Mourad, jeune femme yézidi séquestrée et violée par les hommes du groupe État islamique en Irak. Docteur Hada Hatem, votre réaction à ces mots du docteur Mukwege, cet espoir qu'il porte en même temps décrivant des mots crus, médicaux et vrais ce qui s'est passé, et puis en parlant de cet espoir et de ce retour à la vie, il y a aussi chez vous, quand vous prenez en charge ces femmes, derrière la blessure, derrière la douleur, toujours l'espoir de voir ce retour à la vie.
Bien sûr, d'ailleurs nous, on n'aime pas tellement le mot de victime, on les appelle les héroïnes. Parce que toutes ces femmes-là ont des parcours incroyables, des parcours où beaucoup d'entre nous auraient renoncé en disant bah c'est comme ça, c'est mon destin, c'est fichu, j'abandonne. Et non, elles n'abandonnent jamais. Et à tel point que on se demande parfois par quel mystère elles sont arrivées jusqu'à nous. Elles sont arrivées en France 15 jours plus tôt, un mois plus tôt, et elles ont déjà trouvé que il y avait un endroit où on pouvait s'occuper d'elles, et elles arrivent pleines d'espoir. Et il y a une prise en charge que j'aime beaucoup, qui est mon petit groupe chéri, le groupe de parole des femmes excisées. Parce que ces femmes-là, c'est tous les jours, à chaque fois que je fais ce groupe-là, je l'anime une fois par mois, une leçon de vie. Elle nous raconte des histoires absolument horribles. Elle pleure énormément. Et puis à la fin, on a pris l'habitude de... J'ai acheté quelques instruments de percussion que je leur donne, et elles s'en saisissent, et brutalement, on passe des larmes au rire. Elles se mettent à danser, à chanter. Elles chantent même des choses qu'elles ont écrites pour une amie disparue en mer, pour leurs enfants restés au pays. Et il y a une telle sororité, j'allais dire fraternité, mais non, une telle sororité et une telle émotion dans ces moments-là que vraiment, elles forcent l'admiration de toute l'équipe. Et oui, je pense que ce sont nos héroïnes.
Et le pouvoir de la parole, le pouvoir des mots, vous avez préfacé le témoignage d'une jeune femme japonaise, un Kumi Sasaki, un petit livre bouleversant sur la violence et aussi peut-être surtout sur la passivité face à cette violence. Je dois dire que ce livre qui s'appelle Chikan m'a mise très mal à l'aise parce que c'est le récit d'une fillette. Aujourd'hui, elle est femme, mais elle était fillette. Elle a été, on va dire, systématiquement, son corps a été systématiquement bafoué par des hommes, bien comme il faut, hein, dans des petits costumes, des prédateurs, des pédophiles. Et pendant des années, eh bien, on les a laissés faire, tout le monde les a laissés faire. Docteur Ada Hatem, cette femme raconte, aujourd'hui elle va mieux, elle raconte ce qu'elle a vécu, mais c'est absolument effroyable, cette société qui tourne les yeux.
Mais malheureusement, c'est la nôtre. Et c'est pour ça que ce livre m'a touchée, parce que justement, les agressions sexuelles sur les enfants sont un autre de mes combats. Et j'ai trouvé ce témoignage qui, à la base, paraît si loin de nous, le Japon, un pays qu'on n'imagine pas vraiment avec cette vision-là. Et ben, j'ai trouvé qu'elle décrivait ce que doivent vivre beaucoup de petites filles et de petits garçons aussi, dans tous les pays du monde. Cette idée que l'enfant est un objet à notre disposition, prêt à satisfaire tous nos désirs, qu'on soit bourgeois, qu'on soit ecclésiastique, chef de gang, peu importe.
Ou des petites filles qu'on marie très tôt en considérant qu'elles sont déjà femmes.
Oui, mais c'est en même temps, ce sont des objets de troc. Quand on les marie très tôt, c'est parce que le conjoint est riche ou va soulager la famille d'une dette. Et le fait de chosifier ces enfants-là et de les transformer en objets sexuels est insupportable. Et ce qui est encore plus insupportable, c'est le silence des institutions, c'est le silence des familles. Parce que les familles, pour avoir la paix, font comme si elles ne voyaient rien. Et combien de femmes nous ont raconté des témoignages comme ça, tout aussi terrifiants, de mères ou de pères qui disaient « Non mais tu vas pas en parler, que ton cousin te viole tous les soirs, ça va mettre de l'opprobre sur la famille ma chérie, non, tu vas pas en parler, ça va très bien comme ça. » Et c'est insupportable.
Écoutez ces personnes, écoutez en consultation, parfois les réparer. Docteur Ada Hatem, vous soignez ces femmes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, c'est ma dernière question, elle n'est pas forcément très positive, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère?
Si, bien sûr, mais ça fera toujours une petite cuillère de moins. On ne peut pas se laisser gagner par le désespoir, parce que moi, j'agis localement, je suis locavore. Je me dis, bon, si j'ai déjà... Il y a au moins 7-8 000 femmes qui sont déjà passées dans notre maison. Si on a fait une différence pour celle-là, c'est déjà beaucoup.
Merci docteur Ada Hatem d'avoir partagé ce moment avec l'équipe de Priorité Santé. Émission réalisée par Didier Bleu, préparée par Assetou Samaké, Ophélie Lassène et Baptiste Madinier. Et puis, autre choix musical pour nous séparer, la voix chaude et caverneuse de Leonard Cohen avec Every... Vous dites yes, vous dites Everybody Knows tout de suite sur RFI. Très bonne journée à vous. Et lundi dans Priorité Santé, nous évoquerons l'impact psychologique du terrorisme sur les enfants. Grandir sous la menace terroriste 4 ans après les attentats de janvier, Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher. On se retrouve lundi.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance, qui vous souhaite 365 Everybody jours de santé, de réussite, knows. De joie et d'assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Everybody knows.